à tous, bonjour Caddy.
Bonjour Nicolas, dis-moi, est-ce que vous avez un petit peu d'ail, un crucifix ou de l'eau bénite là sur vous ?
Non, je dois dire que j'en ai rarement sur moi, voyez-vous.
Ah, c'est dommage, vous prenez des risques, hein. Il faut être plutôt prudent puisque dans un instant nous évoquerons les vampires, les loups-garous et les zombies.
Europe 1, les week-ends extraordinaires. Extraordinaire.
Caddy Adoumdouas, Nicolas Caro.
Le teint pâle, des yeux brillants et bien sûr de grandes canines, ce sont les vampires, les buveurs de sang hantent la littérature et le cinéma fantastique, de Nosferatu à Twilight, en passant par Dracula. Bien ancré dans l'imaginaire collectif, le vampire fascine et séduit, mais il existe d'autres bestioles maléfiques, les loups-garous par exemple, ou les zombies. Alors comment ces monstres sont-ils nés? Quels sont leurs pouvoirs? Comment peut-on s'en débarrasser? Et pourquoi sont-ils si fascinants?
Des questions auxquelles vont répondre nos invités. Jean Marigny, professeur de littérature anglo-saxonne et grand spécialiste des vampires, auteur notamment de La fascination des vampires, c'est chez Clinsic, ou 100% Le réveil des vampires, c'est chez Gallimard. Adrien Gourbeau, critique de cinéma, est également avec nous, ainsi qu'Alain Podioli, auteur de La Bible Dracula aux éditions Le Pré au Clair. Patrick Imbert, traducteur d'un best-seller américain, guide de survie en territoire zombie, est également avec nous. Ainsi que Barbara Sadoul, metteur en scène, comédienne, auteur notamment du Bal des loups-garous, c'est chez De Noël. Elle nous en parlera tout à l'heure.
Mais avant d'aborder ce bestiaire de l'horreur, un petit tour rue François 1er. Lorena Martin vous a demandé ce que vous pensiez de ces bestioles.
J'ai peur des vampires, comme tout le monde, je pense. Il y a un côté mythique aussi, historique, qui fait que bon, on a été poussé à croire à ça. Facile, de l'ail, une croix, de l'eau bénite, des cartouches, attention, en argent, puis les décapiter, si possible, si on a le temps. Le pouvoir d'un vampire, l'immortalité, déjà, la force, c'est déjà énorme. C'est deux choses qu'on aimerait bien avoir, l'immortalité.
Non, j'ai pas peur des vampires, j'y crois pas trop, à part ceux qu'on voit dans la rue habillés comme n'importe comment, c'est tout. On a l'impression que c'est Halloween et c'est tout.
Ils sucent le sang, ils ont une force un peu plus surnaturelle.
Non, j'en ai pas peur, parce que ça n'existe pas. Non, ni loup-garou, ni zombie, ni momie, ni mort-vivant. Je suis plutôt un sceptique sur tout ce qui est fantastique. Les pouvoirs des vampires classiques, Dracula et compagnie, c'est quoi, la vie éternelle, la jeunesse éternelle.
Les pouvoirs d'un vampire, c'est de pouvoir justement, par le fait de prendre le sang d'un autre humain, on dira, puisqu'on va plutôt se placer sur le plan humain, de le faire rentrer dans la confrérie des vampires. C'est ça son pouvoir.
Petit, j'ai toujours eu peur des loups-garous. De ces choses-là, les vampires pas trop, je trouve qu'il y a un côté assez fascinant dans le vampire. Je pense que le vampire vient plus de la haute société, il a toujours été présenté comme ça, comme Dracula. Ça a été très souvent traité comme un personnage de bonne éducation, fin, toujours bien habillé, raffiné. Peut se camoufler, se transformer en chauve-souris, je crois.
Voilà, manifestement, on aime se faire peur. Je vous propose de consacrer le début de l'émission aux vampires et nous nous intéresserons ensuite aux loups-garous et aux zombies. Les vampires, donc avec vous d'abord Jean Marigny, vous êtes vampirologue, c'est ça, on peut dire ça comme ça?
C'est une discipline qui n'existe pas dans l'université française, mais bon, si vous y tenez...
Spécialiste des vampires, dites-nous alors, quand les vampires sont-ils nés?
Alors là, c'est une très vieille histoire. Hein. C'est-à-dire que le mot vampire, lui, n'est apparu que très très tardivement, hein, puisqu'il est apparu en 1732. Hein. C'est donc extrêmement tardif. Mais on peut considérer que la croyance aux vampires, ça remonte au Moyen-Âge. Mmh. Et puis, il faut dire
pourquoi
aussi...
Pourquoi 1732, c'est bien précis?
C'est très précis parce que il y a eu deux affaires qui ont défrayé la chronique en Serbie, dans les villages de Medjeveja et Kizilova, et qui ont attiré l'attention des médecins, des philosophes, des théologiens du monde entier. Et on a écrit un rapport en latin, le Visum et Repertum, où précisément
ça se prononce,
on emploie pour la première fois le mot vampire.
Mais alors justement, vous dites que le terme est apparu assez tard par rapport au phénomène, parce qu'en fait, il y avait eu d'autres cas bien avant.
Tout à fait, c'est pourquoi, par exemple, Jean-Claude Aguerre, qui est un autre spécialiste des vampires, appelle tous les vampires qui précèdent cet événement des proto-vampires. Les proto-vampires, pratiquement, ça remonte au Xe siècle de notre ère. Hein. C'est-à-dire que c'est au Xe siècle qu'on commence à colporter des histoires de morts qui sortent de leur tombe et qui...
Oui, vous parlez dans un de vos livres d'un certain chevalier qui a été excommunié. Vous pouvez nous raconter cette histoire?
Alors cette histoire-là, c'est lors du concile de Limoges, un prélat avait fait un rapport sur cette affaire en disant qu'effectivement il y avait un chevalier qui sortait régulièrement de sa tombe et qui allait ennuyer les membres de sa famille. On ne disait pas d'ailleurs s'il leur faisait du mal, hein, mais il les molestait, comme on disait. Et donc on a...
Je mets très agréable.
Voilà. Et puis après, il y a eu des tas d'incidents de ce genre, et surtout dans les îles britanniques. Hein, il y a eu en Écosse, en Angleterre, au Pays de Galles, il y a eu énormément d'histoires de genre. Alors comme le mot vampire, évidemment, n'existait pas, on les appelait sanguisugae, hein, des sangsues. Hein,
Suceur de sang.
Ou on appelait le vampire cadaver sanguisugis, hein, c'est-à-dire le cadavre buveur de sang.
Quoi. Vous parlez aussi de l'affaire d'Arnold Paul, c'est ça?
Alors ça, c'est justement l'affaire à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Arnold Paul, c'est Kisilova en Serbie.
Ah d'accord, c'est celle-là.
Au début du XVIIIe siècle.
Donc c'est un paysan, je crois, qui est mort en tombant de sa charrette, c'est ça?
C'est un paysan qui est mort dans des circonstances dramatiques. Il est tombé de sa charrette. Hein. Et comme vous le savez peut-être, sans doute, on devient vampire quand on meurt de causes non naturelles, hein, accidentelles
ou par suicide.
Et donc, il a été soupçonné d'avoir provoqué la mort d'un certain nombre de personnes dans le village. Et ça s'est ébruité. Et l'empereur d'Autriche a dépêché des médecins pour ouvrir les tombes, examiner les cadavres.
Mais il y a eu une raison qui fait qu'il a été suspecté de... Juste parce qu'il y a eu une mort brutale, ça suffit pour...
Non, parce qu'il faut dire que la chose était dans l'air.
Oui.
C'est-à-dire que depuis le XVIIe siècle, on parle énormément de vampires. Hein. Et lorsqu'il y a des épidémies de peste en particulier, on y voit la présence de vampires. Hein.
On va y revenir. Comment reconnaît-on un vampire, Jean-Marie Nier?
Alors, on le reconnaît à des signes qui sont très différents de ce qu'on voit au cinéma. Hein. C'est-à-dire qu'au cinéma, on voit le vampire comme un être émacié, pâle, alors qu'au contraire, il est rubicon. Hein, il est très rouge, hein, il est gorgé de sang, hein. Et il n'a pas nécessairement non plus des dents extrêmement longues, hein, parce que il procède plutôt par succion à travers les pores de la peau. Hein,
donc il lui suffit d'arracher un bout de peau, après c'est bon,
voilà,
débrouille.
C'est ça, exactement.
Ah, il arrache quand même, c'est pas juste la succion, enfin. Techniquement, on ne va pas rentrer dans les détails techniques.
Il peut y avoir des suctions particulièrement violentes.
Ça dépend du vampire.
Vous allez nous faire peur, vos cadres.
Je me renseigne.
Non, mais l'image a évolué du vampire quand même au fil des siècles.
Elle a considérablement évolué. Hein, parce que, bon, alors elle a évolué déjà dans la légende, puisque au début, c'était des personnages de chevaliers.
Un peu hirsutes.
Non, non, pas nécessairement. Hein, pas nécessairement. C'était souvent des aristocrates. Hein,
dès le départ.
Au départ, hein, au Xe siècle. Hein. Et puis après, comme dit mon ami et collègue Antoine Fèvre, c'était des paysans crottés. Hein. Donc c'était des paysans d'Europe centrale qui n'étaient pas nécessairement, qui n'avaient pas de toute façon une cape noire et une tenue de soirée quand ils se promenaient la nuit. Hein.
Ça, c'est le théâtre qui a amené ça, la cape.
C'est le théâtre, c'est ça. Dandy, oui, c'est la première adaptation théâtrale de Dracula.
C'est le 19e. Hein, 19e siècle, c'est Bram Stoker.
Voilà, c'est ça. Donc, lorsque la veuve de Bram Stoker a vendu les droits d'adaptation à un dramaturge, la pièce a eu un succès énorme à Londres puis à New York, et on a choisi de représenter le vampire en habit de soirée avec la cape, et comme vous le savez, le vampire faisait tournoyer sa cape un petit peu comme des ailes de chauve-souris, et donc l'amalgame s'est fait très rapidement.
On va y revenir, mais on a l'air de disserter là sur une chimère, sur quelque chose qui n'existe pas, mais l'Église dès le 15e siècle reconnaît l'existence des vampires via un livre qui s'appelle le Maleus Maleficarum. Oui. Qu'est-ce que c'est?
Le marteau des sorcières. Hein. Donc c'est un essai qui a été écrit par deux théologiens protestants, et qui donc rencontre de tous les phénomènes surnaturels, on dirait aujourd'hui paranormaux, hein, et les vampires en font partie.
On peut se procurer ce livre aujourd'hui ou pas ?
Pardon ?
On peut se procurer ce livre aujourd'hui encore ou pas ?
On peut se le procurer, il a été...
Ça va être fascinant, ouais.
Je crois qu'on peut se le procurer, il a été réédité par Jérôme Millon, pour ne pas faire de publicité, qui est un éditeur grenoblois, et je pense qu'il est actuellement... qui n'est pas disponible actuellement, mais il est possible qu'il y ait une réimpression.
Hein. On a une description des vampires très claire dedans.
Oui, voilà, c'est
pour
ça.
Pour s'en méfier, en fait, pour les...
Alors, il faut dire que l'Église, au début, l'Église était assez réticente hein, sur le phénomène des vampires. Et au XVIIIe siècle, le pape a décidé d'y mettre fin.
Voilà, on a maintenant le portrait robot du vampire, après la pause. Le vampire le plus célèbre du monde, Dracula. Europe 1, Léo.